Alors voilà, ça y est, vous l'avez constaté, octobre est arrivé. Bon, ça a été un petit peu défloré, mais bon. Alors jusque-là, on pouvait encore un peu faire semblant d'être en vacances, mais il a bien fallu passer de la plage ou de la montagne pour certains, à l'école ou au bureau, et reprendre le travail. Mais mis à part les dates et la température un peu plus fraîche, ici en ville, nous sommes peu conscients des cycles de la nature. À la campagne, par contre, les éleveurs et les agriculteurs doivent réellement se soumettre aux saisons. Ils doivent adapter leurs activités. Alors j'ai choisi un texte de saison et qui correspond au thème du journal du Rio qui sortira bientôt, un texte qui parle de l'automne. Dans le passage que nous allons commenter, Jésus arrive à un moment clé de sa vie. Il a tout essayé pour faire comprendre aux autorités religieuses le vrai sens des Écritures. Il a expliqué, éprouvé qui il était, sa double nature d'homme et de fils de Dieu. Mais rien n'y a fait, ni l'enseignement des prophètes, ni l'interprétation de la loi, ni même les miracles ne les ont convaincus. Pire, plus Jésus explique et donc remet en question ce que les pharisiens, les religieux, tiennent pour acquis, et plus ils se sentent déstabilisés et irrités. Plus Jésus donne des preuves de son autorité, plus ils le jalousent et le détestent. Ils en viennent carrément à le haïr, à l'accuser de s'être lié au diable. Ils veulent le voir mourir. Et Jésus sait bien qu'ils arriveront à leur fin. Jusque-là, Jésus avait prêché pour Israël, le comparant à une vigne et le Seigneur au vigneron. Mais comme le dit le cantique d'Ésaïe, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Jésus, à sa grande tristesse, voit les paroles d'Ésaïe se réaliser. C'est le point tournant du ministère de Christ, le rejet définitif de la révélation divine par Israël, le peuple de Dieu, est entériné. Le temps presse, la fin approche. Alors il rentre dans le vif du sujet de son incarnation. Au-delà d'Israël, il parle du royaume de son Père. Pour ce faire, il utilise des paraboles. Et c'est par ce moyen qu'au travers d'images familières, compréhensibles de tous, Jésus nous donne des indices d'une autre réalité, une réalité spirituelle. Ici, dans la parabole du semeur, il parle du royaume de Dieu et il nous demande de prendre position. Cet épisode est relaté par les trois évangélistes Matthieu, Marc et Luc. C'est celle de Matthieu dans laquelle nous allons entrer. Lisons dans Matthieu 13 la parabole du semeur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit « Un semeur sortit pour semer. » Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur le sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 160 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit : « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit la profession d'Ésaïe : vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain qui en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30 pour un. Jésus, clairement, a compris que ses auditeurs sont pour beaucoup des gens de la campagne, pour qui les soucis des agriculteurs sont le quotidien. Il se représente facilement le grain qui tombe le long du chemin, là où la terre a été tassée par les nombreux passages des charrettes, la terre rocailleuse où la pousse ne peut pas faire suffisamment de racines pour puiser l'eau et qui bientôt grille au soleil brûlant. Les paysans connaissent bien ce soleil qui dessèche et brûle. Quant aux broussailles qui étouffent la pente, eux-mêmes s'y sont blessés bien des fois. Oui, bien sûr, la bonne terre est préférable pour le semeur comme pour la plante. Mais malgré la scène familière, Jésus assure aux disciples que la foule, en fait, ne comprend rien et qu'en plus, il ne leur expliquera pas davantage. Il reprend une autre prophétie d'Ésaïe qui présente certaines différences de traduction. Là où la Bible du semeur pointe l'insensibilité du peuple qui préfère ne pas comprendre, qui a la volonté de ne pas guérir du péché, la Nouvelle Bible Second comprend que c'est plutôt le Seigneur qui engourdit le cœur, les oreilles et les yeux du peuple. Certes, ce sont des différences d'interprétation, mais qui de toute façon soulignent la même réalité. L'incompréhension ne vient pas d'un manque de raisonnement ou d'intelligence, mais de la mauvaise volonté de celui qui l'entend. On note même ici une certaine ironie, aussi bien dans la bouche d'Ésaïe que dans celle de Jésus. Car en réalité, qui pourrait préférer rester aveugle alors que Jésus propose la guérison? Puis Jésus donne une explication assez succincte aux disciples. C'est d'ailleurs la seule parabole qu'il commente sur les 7 qu'il donne sur le royaume. Il souligne la différence entre les différents niveaux d'enseignement selon ce que les personnes sont aptes à recevoir. Je vous rappelle ce qu'il en dit. La parabole du semeur, la semence, elle concerne le royaume. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises au cours de son ministère, le royaume, c'est comme un homme, le royaume, c'est comme une graine. Reprenons les explications de Jésus. Le cœur endurci par le refus de la parole est comme le bord du chemin. Elle ne peut pas y pénétrer, mais attention, alors c'est le diable qui prend le pouvoir. Le sol rocailleux est plein de pierres qui empêchent l'enracinement de la parole. Mais si les pousses paraissent prometteuses, elles disparaissent aux premières épreuves. Quant aux broussailles qui l'étouffent, ce sont les soucis, les peurs, les préoccupations et les mirages de ce monde. Mais à titre personnel, on peut se demander, en ce qui concerne notre propre dureté, à quel moment on se bouche soi-même les oreilles, on se cache les yeux. Quelles sont ces fausses vérités que nous tenons pour indiscutables, cette sagesse humaine qui nous conforte dans de fausses croyances? Et dans quelle mesure l'attrait des convoitises et du péché nous rend indifférents à la vérité divine? Quelles sont ces pierres dans notre terrain qui empêchent la parole de pénétrer? À mon sens, c'est quand on reste dans une émotion de surface, ému par les chants, par la beauté du texte biblique, la joie de la gratuité de l'amour de Dieu. Alors on est transporté, tout est beau et merveilleux, on commence à venir aux réunions, aux groupes de maison, on apprécie la communion fraternelle, et puis arrive l'adversité. Adversité dont on se croyait dédouané, et c'est la catastrophe, tout s'écroule. Essayons d'identifier en nous ces épreuves qui nous rongent, à tel point qu'elles nous font douter de la bonté et de la justice de Dieu et nous éloignent de lui malgré le bel enthousiasme du début. Si les pierres empêchent de pénétrer dans le sol, un autre danger, ce sont les buissons qui étouffent la graine. Ils peuvent être multiples. L'illusion de la sécurité, apportée par l'argent et qui peut générer tant de conflits, celle du pouvoir, l'obsession du travail à faire pour y parvenir, par exemple. Il y a aussi l'inquiétude qui absorbe toute notre énergie et nous éloigne petit à petit de la parole de Dieu, et aussi peut-être cette illusion plus subtile de croire que notre vieille nature peut cohabiter avec notre foi, croire qu'il n'est pas indispensable de donner la première place au Christ, ce qui nous pousse peu à peu à nous conformer à nos propres pulsions et aux diktats de la pensée en vogue. Et la dérive commence. La question se pose alors, sommes-nous de la bonne terre? Comprenons-nous ce qui est dit dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire prenons-nous la parole avec nous, en nous? La bonne terre, comme il a été dit dans la parabole de la vigne, c'est celle qui a été travaillée par le vigneron, qui a pris soin d'en retirer les pierres, les mauvaises herbes, et qui l'a labourée. C'est cette terre qui permet à la graine de se développer. Comme on l'a dit, ce n'est pas une question d'intelligence, mais de prise de position à l'égard de Jésus, de son enseignement et de son royaume. Seul l'Esprit Saint reçu et accepté travaille notre terre et peut nous faire accéder à cette compréhension. Dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel affirme que Dieu établira son royaume en pulvérisant les nations. Mais Dieu, s'il parle surtout des terrains où tombent les grains, donc de nous, on dit aussi un peu sur le semeur. D'ailleurs, la parabole est intitulée « La parabole du semeur » et pas « La parabole des terrains ». C'est-à-dire qu'il parle aussi du royaume de Dieu. Jésus nous dit que le royaume est déjà arrivé parmi les hommes. Nous sommes actuellement à l'époque où l'Église est sur la terre, où le royaume existe déjà, mais en l'absence du roi. Jusqu'au jour où il viendra, et établira son royaume glorieux. Il nous enseigne que dans le plan de rédemption, le moment de détruire le mal n'est pas encore arrivé. Nous sommes au temps des semailles où le royaume, par l'intermédiaire du grand semeur, sème avec profusion, sans compter. Il sème partout. Il offre sa grâce à tous, sans préjuger du résultat. La parole, cette graine de vie, peut être accueillie ou non, s'enraciner ou non. On remarque que dans la bouche de Jésus, il n'y a pas de condamnation pour les mauvais terrains. Ils ne font que se priver eux-mêmes des fruits. Comme il est dit en Matthieu 5, Dieu fait lever le soleil sur les injustes comme sur les justes, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Quoi qu'il arrive, le méchant n'est pas balayé pour le moment. Car actuellement, le royaume est à l'œuvre sans bruit. Il ne s'impose pas. Dieu n'insiste pas sur la moisson, sur la récolte. Il n'intervient ni sur le sol, ni sur l'accueil qui est réservé à la parole. Il ne gère pas strictement le développement de sa parole en nous. Il nous laisse le choix. Par contre, dans son amour, il nous envoie son Esprit Saint pour nous aider, seulement si nous sommes prêts à l'accueillir. L'homme est libre. Dieu lui laisse encore du temps pour laisser Dieu assainir son terrain et pour choisir son camp. Qu'en est-il du grain qui a levé ? Jésus n'en parle pas beaucoup. La plante a grandi dans une terre saine et donne du fruit selon sa nature, à 100, à 60, à 30 pour 1. Le grain est prêt à la fois à nourrir et à être semé de nouveau. Mais cette fois-ci, c'est celui qui récolte, qui sème à son tour. Je dirais le petit semeur. En s'appuyant sur la parabole et en extrapolant, hein, ce n'est pas dit textuellement vraiment dans le texte, mais on peut penser quand même, on peut parler de ce petit semeur tout en s'en rappelant que le grand semeur continue à semer et reste maître des semailles. Que peut-on lui dire donc à ce petit semeur ? D'abord qu'il est vital qu'il garde une part de grain pour lui-même. Comme le paysan utilise une partie de sa récolte pour se nourrir, le futur semeur doit digérer et assimiler ses grains arrivés à maturité pour prendre des forces avant d'aller plus loin. Si le grain est bien la parole de Dieu, nous, les petits semeurs ou futurs petits semeurs, nous devons d'abord méditer cette semence de vie, nous en imprégner sans cesse, savourer et nous réjouir de ces dons que Dieu nous donne au travers d'elle, largement et différent pour chacun. Ensuite, remercier Dieu pour sa grâce et ses dons, sans nous en glorifier, mais sans culpabiliser. La vraie question, c'est de savoir ce que nous allons en faire. Puis semer à notre tour. Dans le monde rural, il est plus qu'improbable qu'un paysan sème sur un terrain dur au bord du chemin où il n'a aucune chance de pousser et qu'il n'a pas au préalable labouré. Mais Dieu, si. Et comme lui, nous sèmerons largement la parole sans calculer l'endroit où la graine tombera. Les grains sont des grâces, nous avons cette chance de connaître l'Évangile et son enseignement, mais cela nous donne cependant quelques responsabilités. Il est à remarquer que le grain récolté n'est pas différent du grain planté, a priori, et qu'il faut veiller à ne pas transformer à notre gré cette divine semence avant de la transmettre. Ce n'est pas notre grain que nous semons, mais la graine de Dieu. Nous la donnons à notre manière, mais elle ne nous appartient pas. La nouvelle graine que nous semons, c'est la parole, mais c'est aussi ce qu'elle a transformé en nous, c'est-à-dire son fruit. Par exemple, ce qu'elle a produit en nous de joie, de pardon, de droiture, de simplicité, et tant de choses encore. Autrement dit, ce qu'elle a changé dans notre vie, notre caractère, notre relation aux autres. Et pourtant, je viens de dire que nous ne devions pas modifier la graine. Mais là, je ne parle pas de modification, je parle de valeur ajoutée. Ce n'est pas la graine que nous modifions, C'est elle qui nous a modifiés. Et c'est, si vous le permettez, en tant qu'OGMP, c'est-à-dire d'organismes génétiquement modifiés par la parole, que nous sommes des petits semeurs qui travaillons pour le grand semeur. Nous pouvons certes préparer le terrain, mais il est indispensable d'avoir la patience, de respecter le rythme de chacun et de lui donner l'espace vital nécessaire à son épanouissement. Mais au-delà de l'énergie passée à semer, soyons conscients que le reste ne dépend pas de nous. Comme un enfant dans le ventre de sa mère, la graine se transforme et grandit dans les profondeurs de l'obscurité de la terre-mère, en dehors de nous, et cela que nous soyons éveillés ou endormis. Ne soyons pas impatients, n'essayons pas de quantifier la récolte. En résumé, nous ne comprenons que peu de choses aux fruits du royaume. Pourquoi tel message mûrement travaillé n'a pas semblé touché, alors qu'une parole, dite en passant, reçoit un accueil reconnaissant. Cette parabole nous dit que nous ne devons pas être préoccupés. Dieu agit comme il le veut, c'est lui qui opère. Nous n'avons pas à nous enorgueillir d'un temple bondé, ni nous désespérer s'il est vide. Réjouissons-nous seulement de la récolte, sans nous inquiéter du rendement. Si on s'est positionné pour, envers Christ, et qu'on a accueilli la graine au point qu'elle porte du fruit, alors notre mission est de semer à notre tour, puis de laisser faire. Dans la main de Dieu, une petite graine peut donner de grands fruits. Cette petite graine peut être un témoignage, une écoute bienveillante, un geste de générosité ou de réconfort, une main tendue. Semons avec confiance, espérance et humilité, sachant qu'au travers de nous, c'est le grand semeur, le Seigneur qui opère. N'oublions pas que nous-mêmes, nous sommes au bénéfice de la venue sur terre de Christ, qui, comme le grain qui meurt pour donner naissance à la plante, a donné sa vie pour nous, pécheurs, pour notre salut. Au bénéfice de Christ et aussi au bénéfice de ceux qui ont osé semer pour nous et transmis son évangile. Et pour notre grande joie, prenons conscience que personne ne peut présager ou même imaginer la beauté de la plante, toujours unique, qui viendra éclore. Amen.